Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Voilà, je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir dans l'évangile selon Marc. Et nous allons entendre la lecture des 12 derniers versets de cet évangile. Donc Marc 16, et nous entendons la lecture du verset 9 à 20.
Alors, Marc 16, à partir du verset 9. Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Jusqu'ici.
Avez-vous déjà vu une tyrolienne? C'est un câble auquel on s'accroche pour descendre. Impossible de faire de la tyrolienne si nous ne sommes pas accrochés au câble. Ben oui. Ben lire la Bible sans s'accrocher au Saint-Esprit, c'est comme se lancer dans une tyrolienne sans s'accrocher au câble. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit encore aujourd'hui pour comprendre sa parole. C'était le 26 janvier 2020. Que s'est-il passé ce jour-là? Eh bien, c'était la première prédication sur l'évangile selon Marc. Nous avons commencé à parcourir ce livre que j'aime appeler le journal de Pierre écrit par Marc. Nous l'avions vu généralement les derniers dimanches du mois, et nous voici à la 44e prédication sur ce livre, sur ce récit historique de la vie de Jésus, aussi appelé donc l'évangile, la bonne nouvelle. Et lors de la dernière prédication, je vous ai dit que l'évangile de Marc se terminait au verset 8 du chapitre 16. Alors que dans nos Bibles, vous avez devant les yeux, vous avez encore les versets 9 à 20. Généralement, ils sont mis entre crochets. Ce n'est pas dans toutes les Bibles, j'ai vérifié, c'est dommage. Mais généralement, c'est entre crochets avec une note. Par exemple, moi, chez moi, c'est écrit... Les versets 9 à 20 se trouvent dans plusieurs manuscrits, mais manquent dans d'autres. Certains manuscrits secondaires ont à la place ou en plus une fin différente. Bon. Eh bien, un certain nombre de prédicateurs sérieux, bibliques, ne prêchent tout simplement pas sur ces versets, qu'ils pensent absents de l'original. D'autres, comme je le fais aujourd'hui, prêchent sur ce texte, confiant que Dieu à préserver sa parole de l'erreur en utilisant l'analogie de la foi, tout en avertissant qu'il faut être prudent dans l'utilisation d'un texte qui probablement n'était pas dans l'original. Mais c'est aussi une occasion de réfléchir à la transmission de la parole de Dieu et que faire de ces textes entre crochets dans le Nouveau Testament, en fait. Je dois tout de suite vous informer que nous trouvons en fait deux textes de cette longueur entre crochets dans le Nouveau Testament. Seulement deux. Il n'y en a pas plus de cette longueur-là. C'est celui-ci dans Marc 16, versets 9 à 20, et l'autre... Oh, j'ai oublié de regarder la date de quand j'avais prêché là-dessus, mais j'avais prêché sur Jean. C'est le début du chapitre 8, c'est la fin. Enfin, Jean 7, 53 à 12, 11, je crois. 8, 11, merci. Chapitre 8, ouais. 7, 53 à 8, 11, merci. Donc ça, c'est dans Jean. Et puis, dans Marc 16, 9 à 20, c'est les deux seuls endroits où vous aurez des crochets pour une si longue partie dans le Nouveau Testament. Donc ça, c'est quand même déjà pour être parfaitement clair. Il n'y a pas et ensuite, il y a parfois des bouts de phrases ou comme ça qui sont parfois entre crochets dans le Nouveau Testament. Donc, nous allons un petit peu parler de ce sujet. Je me suis dit, au lieu de passer comme chat sur braise et passer à un autre livre, ben pourquoi pas faire face aussi à ça ensemble, en Église, pour qu'on sache que faire avec tout cela. Donc, on va voir trois points ce matin. Le premier, ce sera un texte absent de certains manuscrits. On va parler de ça. Ensuite, on va parler de l'analogie de la foi. Qu'est-ce que c'est? Et justement, ça sera l'outil principal qu'on va utiliser pour parler de ce texte. On terminera par un point très court qui parlera du message de Marc. Donc commençons par le premier point, un texte absent de certains manuscrits. Alors je vais commencer par une illustration, soyez pas surpris, je ne parle pas directement du texte maintenant, mais pour nous faire entrer dans l'idée. Jusqu'en 2018, le kilogramme était défini par une entité de référence matérialisée. Il y avait un kilogramme étalon qui était à Paris. Jusqu'en 2018. Après, il y a eu quelques petits changements, mais voilà. Et là, il y a un prototype international du kilogramme qu'on appelle le PIC, qui est fait en platine et en iridium. C'est un cylindre de 39 cm de diamètre et 39 cm de hauteur. Et cet étalon est utilisé pour créer le poids, pour peser, par exemple, avec une balance, afin que tout le monde ait la même unité de poids. Comprenez l'idée. Il y a un poids étalon qui est donc à Paris. Et des milliers de poids de référence ont été faits, ont été créés à partir de cet étalon. Et ensuite, ces poids de référence ont permis de créer d'autres poids de référence qui, en fait, ont été utilisés pour mesurer, pour peser, en fait, différentes choses et avoir tous le même poids. Imaginons maintenant que l'étalon qui est à Paris disparaisse. Serait-il possible de reconstituer ce poids de 1 kg avec exactitude? Est-ce que cela serait possible? Eh bien, en fait, ça dépend du nombre de poids qui a été répliqué et que nous avons à disposition. Mais si nous en avons des milliers à disposition, eh bien, nous pouvons, en pesant tous ces poids qui ont été faits à partir de cette référence, arriver très exactement au même poids de l'original. Et on verra que certains poids ont été un petit peu cassés, d'autres ont peut-être un petit peu de la terre dessus, enfin du chenil, etc., qui font que c'est un petit peu plus lourd, un peu moins lourd. Puis on verra tout de suite, en fait. Parce que si on les pèse tous, on va se rendre compte, ceux qui sont un petit peu plus, un petit peu moins, puis tous ceux qui ont un poids similaire. Vous comprenez un petit peu l'idée? Donc, vous pourrez déterminer avec une grande exactitude le poids du kilo, même en n'ayant plus les talons d'origine. Vous pourrez déterminer qu'une grande exactitude le poids du kilo, même en n'ayant plus les talons d'origine. Et je ne vous ai pas parlé encore de tout ce qui a été pesé par ces poids qui ont été consignés et qu'on pourrait aller peser pour aller vérifier si les poids sont justes. Donc ça commence à être beaucoup plus grand encore, les possibilités de contrôle de ces poids. Pourquoi je vous parle de ces kilos? Bon, je pense que vous commencez peut-être à faire les liens. Eh bien, simplement parce que l'étalon, le manuscrit original de la Bible, on ne l'a plus. On ne l'a plus, il n'existe plus. Et, bon, je dois vous dire une petite confidence, c'est que j'imagine pourquoi ils ne sont plus là. J'imagine, donc ça c'est, attention, ne me prenez pas ça pour une parole, mais j'imagine que Dieu ne l'a pas permis pour qu'il n'y ait pas de culte autour de ces objets-là. Mais ça, ça ne tient qu'à moi. Mais nous n'avons pas les écrits originaux de la Bible. Comme nous n'avons pas les écrits originaux, il faut rassembler toutes les copies les plus anciennes possibles pour être le plus proche possible du texte original. Maintenant que vous avez compris l'histoire des pois, vous commencez à faire le lien. Et donc, quelque part, de rechercher le plus de pois possible, de un kilo, pour faire les comparaisons. Et pour le Nouveau Testament, nous avons des milliers de manuscrits qui ont été comparés. Et il est possible d'être très exact dans son contenu. Le travail qui consiste à faire ces comparaisons est appelé en fait la critique textuelle. La critique, malheureusement, a été utilisée pour autre chose par la suite, mais la critique textuelle, c'est très bon, c'est une très bonne science qui a fait un travail gigantesque et passionnant et très utile pour que nous puissions, en fait, grâce à ce travail méticuleux, pour être sûr que le texte biblique que nous avons, c'est le texte, le même que les talons, si vous voulez, que l'original. Donc, en fait, dans votre Bible, je parle particulièrement du Nouveau Testament ce matin, eh bien, tout ce qui n'est pas entre crochets, c'est parfaitement sûr, en fait. Les crochets nous donnent les quelques variantes possibles qu'on a dans ces milliers de manuscrits que nous avons et qui sont sérieux. Donc, c'est juste pour qu'on comprenne cette notion. Ça veut dire que tout ce que vous avez dans votre Bible qui n'est pas entre crochets est totalement et parfaitement sûr dans la langue originale, même si nous n'avons pas les manuscrits originaux. Donc ça, c'est un élément important à saisir et comprendre. Là, c'est en lien avec le travail qui a été fait. Évidemment, je crois à la préservation aussi, cette doctrine où c'est Dieu lui-même qui préserve, évidemment, aussi sa parole. Et il le fait par différents moyens. Et la critique textuelle est un moyen qu'il utilise aussi. Donc j'espère que vous avez compris maintenant ce que signifient ces petits crochets dans votre Bible. C'est en fait simplement que ce sont des éléments que... comme avec les pois, il y a certains pois, il manquait des petits bouts comme ça, certains manuscrits, il y avait des choses en plus ou en moins, puis là, ils sont notés pour qu'en fait, on ait toutes les informations nécessaires. Il n'y a aucun texte, en fait, un ancien texte qui est autant documenté que la Bible. Donc, ceux qui disent qu'il y a des erreurs, c'est qu'ils n'ont jamais fait les recherches parce que, justement, on a tout recherché pour pouvoir démontrer quels sont les éléments qui sont variables. Donc, je peux aussi affirmer, et vous pouvez le chercher vous-même, là, je ne peux pas le démontrer maintenant, si vous voulez, qu'aucune doctrine de la foi chrétienne n'est remise en question ou modifiée par les textes ou les morceaux de phrases que vous pourrez trouver entre crochets dans votre Bible. Aucune doctrine de foi chrétienne n'est remise en question ou modifiée avec les textes ou les morceaux de phrases que vous pourrez trouver entre crochets dans vos Bibles. Et pour revenir à nos textes du jour, de Marc 16, 9 à 20, il faut savoir qu'il existe une version plus courte pour terminer Marc. Donc après le verset 8, voilà ce qu'il y a dans certains manuscrits. Mais elles firent aux compagnons, je lis peut-être le verset 8, elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Mais elles firent aux compagnons de Pierre un bref récit de tout ce qui leur avait été annoncé. Ensuite, Jésus lui-même fit porter par eux, de l'Orient à l'Occident, le message sacré et incorruptible du salut éternel. Ça, c'est une autre variante de fin de Marc. Le fait qu'il y a plusieurs variantes nous fait un peu réfléchir. Est-ce que cette fin, au verset 8, paraît quelque part inacceptable? C'est une fin abrupte, vous avez déjà vu le verset 8 ? Qui termine un livre comme ça, c'est une fin qui... Et en plus, on termine par un mot qui est un peu bizarre. Et ils sont pleins d'effroi. On termine par la peur. On n'a pas envie de terminer un livre comme ça. Dans un sens, si quelqu'un termine un livre comme ça, il y aura plein de monde qui aura envie de le compléter. Donc, plusieurs notes, plusieurs manuscrits très anciens ont des notes aussi dans les manuscrits, dans les marges, pour dire que les ajouts qui ont été faits, ou l'ajout, les aussi versets 9 à 20, eh bien, sont des ajouts. Et on a aussi des personnes de référence dans les premiers siècles qui affirment n'avoir cette fin de Marc dans aucun manuscrit qu'ils avaient à disposition en grec à l'époque. Le vocabulaire semble différent de tout le reste de l'évangile de Marc. Le changement étonnant est très brusque entre le verset 8 et verset 9. C'est très étonnant. C'est des dames qui ont peur et tout à coup, hop, on voit la Marie-Madeleine, le premier jour de la semaine, qui voit Jésus. Donc, il n'y a pas de transition. Les sévères reproches d'incrédulité de Jésus que nous voyons nulle part ailleurs dans le contexte de la résurrection des autres évangiles sont donnés ici. On y reviendra. L'annonce des signes accompagnant chaque croyant qui n'apparaît nulle part d'autre dans le Nouveau Testament. Tout ça nous pousse en fait à penser que ce texte n'a pas été écrit par Marc. Et d'un autre côté, très tôt, cette fin de Marc a été ajoutée au manuscrit, et ce qui a eu pour conséquence que la plupart des manuscrits récents ont cette fin. Et il est difficile de croire que Marc termine sur la crainte des femmes, justement. Bien que la crainte dans Marc, et ça c'est un élément que j'avais déjà dit la dernière fois, la crainte dans Marc manifeste une action divine. Chaque fois qu'il y a une action divine dans Marc, on a vu ça la dernière fois, ben on a une crainte. Vous rappelez quand il y a la pêche miraculeuse, au début, hein, Pierre il a peur devant Jésus. Puis on voit ça régulièrement dans Marc. Et donc cette fin comme ça, avec une crainte, manifeste en fait une manifestation divine. Alors je crois la doctrine de la préservation, comme je l'ai dit, et Dieu a permis que ce texte soit dans nos Bibles. Donc ça nous fait quand même réfléchir. Hein. Et ce qui est écrit ne contredit pas le reste du Nouveau Testament. Ainsi, pour ma part, je reste prudent, et en fait, j'encourage à la prudence lorsqu'on veut s'appuyer sur un élément de Marc 16, 9 à 20. Simplement, j'encourage à la prudence lorsqu'on veut s'appuyer sur un élément de Marc 16, 9 à 20 pour prouver ou fonder une vérité. Donc, c'est entre crochets, je dis soyez prudents. Et nous allons maintenant voir comment utiliser ce texte, parce que là, je vous ai dit qu'est-ce qu'il en était de ce texte. Mais alors, comment on peut l'utiliser, en fait? Ça, c'est la question. Comment utiliser le texte, les textes entre crochets? Et nous verrons que cette façon de faire, en fait, est semblable avec, en fait, avec le reste des textes bibliques. À l'exception que ici, on ne va pas s'appuyer sur cette partie-là pour fonder une nouvelle doctrine, une doctrine, ça c'est clair. Alors, face à ce texte, on va utiliser ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Et nous allons directement l'appliquer à notre texte ce matin, hein, avec les éléments qui sont dans ce texte, pour voir comment on peut aussi les appliquer dans nos vies. Voilà, donc ça c'était le premier point, un texte qui était donc cette notion d'un texte qui manque dans certains manuscrits, et c'est la réalité, il ne faut pas en avoir peur. Et comme j'ai dit, tout le reste du Nouveau Testament qui n'est pas dans ces crochets est parfaitement sûr. Ça n'enlève pas notre confiance dans tout le texte de la parole de Dieu. Donc ça c'est un élément important à saisir. Donc, deuxième point, l'analogie de la foi. Qu'est-ce que l'analogie de la foi, que nous nommons aussi parfois analogie des Écritures? Certains disent analogie de la foi, analogie des Écritures, c'est la même chose en fait. En fait, c'est assez simple, c'est un grand terme pour dire quelque chose de très simple. C'est que la Bible s'explique par elle-même. La Bible s'explique par elle-même, elle est cohérente. Ça, c'est un élément important. La Bible est Dieu est cohérent, sa parole est cohérente. Donc, la Bible s'explique par elle-même, elle est cohérente. Et donc, un texte doit être lu dans son contexte immédiat et dans le contexte global de la Bible. Le texte doit être lu dans son contexte immédiat et dans le contexte global de la Bible. Et Paul pose les fondements de l'analogie de la foi en Romains 12, verset 6, où il dit... Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord. Et là, c'est intéressant parce que le terme qu'on trouve dans l'original, c'est analogia. Que ça soit analogue avec la foi. Donc, c'est malheureusement traduit en accord avec la foi dans nos... Enfin, malheureusement, mais c'est souvent mal compris. C'est juste qu'on doit prophétiser en ayant la foi, c'est ce qu'on comprend. Puis en fait, si on étudie le texte, on se rend compte que les prophéties doivent être faites en accord ou en analogie avec la foi, c'est-à-dire en accord avec le reste des Écritures, avec le reste de ce qui définit notre foi. Hein, donc ça, dans Romains 12, 6, on voit un élément qui est bien posé. Et Jésus lui-même nous montre un exemple frappant, en fait. Vous vous souvenez que Jésus a été tenté par le diable dans le désert. Ça vous dit quelque chose? Si jamais, relisez Matthieu 4 et Luc 4. C'est quatre, les deux. Or, comment Jésus répond-il à Satan qui le tente? Vous vous rappelez? Ah non, il ne téléphone pas. Mais c'est vrai qu'il y a, cette notion, en fait, il se réfère à quelque chose. Hein? Il est écrit, exactement. Il est écrit. C'est ce qu'il dit, vous êtes d'accord? Il est écrit. Bon. Eh bien, que fait Satan? Deuxième tentation. Eh bien, il va utiliser un texte biblique. Il va utiliser un texte biblique, il va dire, eh bien, il est écrit, et puis fais ce que je veux, quoi. Enfin, je résume le truc, hein. Par rapport à se jeter en bas le temple, vous vous souvenez peut-être de cette notion. Et que fait Jésus face à cette situation-là? Analogie de la foi. C'est exactement ce qu'il fait là. Il va citer un autre texte. La Bible est cohérente. On peut pas avoir un texte qui contredit l'autre. Or, des fois, pour nous, il y a des mystères qu'on n'arrive pas toujours à comprendre comment ils vont ensemble, ça c'est vrai, mais les textes ne se contredisent pas. Et Jésus va dire au tentateur, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Parce que Satan avait dit, ben, tu peux sauter puisqu'il est dit que les anges ne permettront pas que tes pieds, que tu chutes. Il dit, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et en fait, le texte que Jésus cite, il est très facile à comprendre. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras pas quelque chose pour dire, ben, Seigneur, vas-y, agis maintenant. C'est très simple à comprendre. Alors qu'en fait, le texte que Satan a cité, c'est un texte qui est plus difficile à comprendre. Il faut prendre le contexte du psaume pour voir de qui il parle. Il faut commencer à voir ce que ça signifie. Et en fait, le texte de Jésus qui est plus simple permet de déjà poser une base. On ne tente pas Dieu. Point. Donc le fait de se lancer en prenant cet autre texte, on va contre celui-là. Bon, on est dans une mauvaise direction. L'analogie de la foi, c'est prendre les autres textes de la Bible qui nous permettent de nous rendre compte si on est dans une bonne direction dans l'interprétation de celui-là. Vous voyez? Et c'est, Jésus le fait exactement là avec Satan. Il dit non, non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc Jésus nous montre en fait la voie à suivre. Et nous pouvons le faire avec ces textes qui sont entre crochets dans la Bible. C'est exactement ce qu'on va faire en fait. Les textes qui sont entre crochets dans la Bible, on va s'y appuyer si dans le reste de l'Écriture, nous avons des appuis qui le confirment. Si nous n'avons pas d'appui qui le confirme, nous restons prudents. C'est le principe à prendre. Et de toute façon, même pour n'importe quelle doctrine, il ne faut pas se baser sur un seul texte biblique. C'est quelque chose qui est... je ne dis pas que ça n'arrive jamais, parce que je veux dire, on a le texte de la parole de Dieu, comme je dis, qui est parfaitement sûr, mais c'est quelque chose qui est donc à éviter. Donc reprenons le chapitre 16, verset 9, et on va un peu suivre ce texte ensemble. Hein, on va prendre déjà le verset 9 et 10. Verset 9 et 10, où il est dit, « Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. » Bon, est-ce qu'on a quelque chose ailleurs qui peut nous montrer que ce qui est écrit là est vrai? Alors vous me dites oui, c'est juste, je suis d'accord avec vous. Donc vous pouvez regarder dans Jean, on va aller dans Jean 20 et on va regarder plusieurs versets dans Jean. Jean 20, je lis juste le verset 1 pour voir si quand Marc il parle dans le texte de Marc, il est parlé du premier jour de la semaine, si c'est juste, bon, ok. Donc Jean 20, verset 1. « Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin. » Comme il faisait encore sombre et obscur, elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Ok, donc premier jour de la semaine, on peut s'appuyer dessus. Ensuite, verset 11. Donc on va aller au verset 11. Puis là, je vais lire jusqu'au verset 17. Cependant, Marie se tenait dehors. Donc des choses sont passées entre deux. Hein, mais Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds, et lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur. Je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit, en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jusque-là. Et puis le verset 18, « Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il avait dit ces choses. » Donc, si on reprend Marc, versets 9 et 10, eh bien, on voit que, premier jour de la semaine, Marie-Madeleine était là, Jésus s'est présenté à elle et elle est allée en parler aux disciples. Donc, toutes ces choses-là sont correctes, on peut s'y appuyer. L'analogie de la foi nous permet d'être paisible avec ce texte. Et ce texte va souligner même qu'elle a été délivrée de 7 démons. C'est vrai, ça ? Alors, si c'est le seul texte qui le dit, on est un peu embêté. Mais ce n'est pas le seul texte qui le dit. Dans Luc, chapitre 8, verset 2, il y dit « Les 12 étaient avec lui, quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. » Donc, on est tranquille. L'analogie de la foi nous permet d'être tranquille dans ce texte. Et en fait, permet de souligner une grâce extraordinaire ici. Jésus s'est manifesté à Marie-Madeleine la première. Déjà, premièrement, c'était une femme. Or, aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi il dit ça ? Simplement qu'à l'époque, le témoignage d'une femme n'était pas considéré dans une cour de justice. Bon, ce n'était pas tellement une bonne idée de se présenter à une femme si on voulait avoir un témoignage qui était valable. Donc là, il y a quelque chose d'extraordinaire que Jésus a fait. Et deuxièmement, il s'est manifesté à une femme qui était possédée. Donc quelque part, une femme qui était prise par Satan, si vous voulez. Eh bien, Jésus s'est manifesté à elle en premier, elle qui a été délivrée. Donc là, c'est un message qui est juste extraordinaire et qu'on trouve aussi dans ce texte de Marc 16. Donc là, on en est encouragé, vous voyez. Ensuite, on continue versets 11 à 14 de Marc 16. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils revinrent aussi, eux, l'annoncer aux autres qu'ils ne le crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Alors les disciples... je crois que c'est assez général, il me semble qu'on peut le voir dans tous les évangiles, vous pouvez aller voir avec vous, mais ils ne reçoivent pas la nouvelle de la résurrection comme un scoop. En fait, ils ne sont pas surexcités de se dire « voilà, ça sera l'article du siècle pour la Gazette de Jérusalem » où le rédacteur en chef, il va être super content parce qu'on aura une super vente, parce qu'on a une nouvelle extraordinaire que tout le monde sera content d'entendre. Ils n'étaient pas comme ça, les disciples. Hein. Ils avaient peur. Et puis, ils se disaient, mais est-ce que nous-mêmes, on va se faire arrêter ? Ils étaient sceptiques. Hein, si quelqu'un disait qu'ils ont vu un tombeau vide, ils disaient, OK, ce que ça veut dire, etc. Et ça, c'est vrai que les autres évangiles le témoignent. Dans Luc 24, par exemple, lorsque les femmes viennent annoncer aux disciples qu'elles l'ont vu, au verset 11, mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie. Ils ne crurent pas ces femmes. Oui, il y a de l'incrédulité, c'est vrai. Et ça, dans ce texte de Marc ici, de la fin de Marc, hein, 11 à 14, c'est vraiment, il y a une grande emphase sur l'incrédulité. C'est vrai par contre que les disciples ne sont peut-être pas autant sceptiques qu'il est souligné ici dans ce texte. Parce que Marc dit que les deux personnes qui sont allées à la campagne, lorsqu'ils reviennent et qu'ils ont vu Jésus, les autres ne les croient pas. Moi, je pense qu'il y a un mélange dans la tête de celui qui a écrit ça, ici. Je pense qu'il y a un mélange entre le fait que ces gens sont revenus et que Thomas n'a pas cru. Mais si on va regarder dans Luc 24, qui nous parle de ces gens qui reviennent, 24, versets 33 à 35, donc ceux qui étaient avec Jésus à Emmaüs et qui l'ont reconnu quand il a partagé le pain, ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, et là, c'est les autres qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Donc nous voyons ici qu'en fait, ils ont reçu cette nouvelle en ayant déjà la notion, ben oui, mais Simon l'a vu. Donc il n'y a pas cette notion de ne pas croire. Mais c'est simplement dans ce temps, quand on raconte ce qui s'est passé, ben on a différents points de vue. Et là, je pense qu'il y a Thomas qui est arrivé. Et c'est vrai, Thomas, lui, il n'a pas cru. Il a fallu que Jésus, en fait, lui montre son côté et quelque part le reprenne par rapport à son incrédulité. Dans le texte de Marc, au chapitre 16, au verset 14, il est parlé même qu'il leur parle de leur incrédulité et de leur dureté de cœur. Mais ça, on le trouve nulle part ailleurs en lien avec la résurrection. C'est juste qu'ils étaient incrédules. Et quand Jésus a parlé à Thomas, ben il a dit « c'est bien de croire ». Mais on voit toujours Jésus qui veut plutôt donner des preuves plutôt que de les reprendre. Par exemple, on continue dans Luc, hein, je suis un peu dans Luc, comme ça on pouvait continuer à suivre. Luc 24, verset 36, « Tandis qu'il leur parlait de la sorte, lui-même se présenta, donc c'est juste après ce que j'ai lu avant, ils sont revenus, ils racontent qu'on a vu Jésus, et tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous !» Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs ?» « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. » Oui, les disciples ont eu du mal à croire. Et dans ce qui est écrit dans la fin de Marc, il n'y a pas de mensonge. C'est juste qu'il y avait de l'incrédulité. C'est juste qu'ils avaient de la peine à croire. Mais Marc, dans ce texte de Marc, il y a un peu une emphase. Mais voilà, Jésus n'était pas content avec eux, quelque part. Ben, peut-être quelqu'un a pu le ressentir comme ça, c'est possible. Mais dans les textes, on voit que Jésus allait plutôt dans les rassurer. N'ayez pas peur, je vais vous montrer. Donnez-moi à manger. Franchement, si on croit qu'il y a un fantôme, puis on donne à manger, la nourriture disparaît, ça ne peut pas être un fantôme. Hein. Et il leur ouvre l'intelligence. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il va les envoyer et faire des disciples. Alors l'analogie de la foi vous permet, en ayant toutes ces informations des autres évangiles, quand vous lisez Marc, eh bien vous allez le comprendre, l'interpréter d'une manière qui est juste. Et pas se dire « Jésus, il était très fâché contre eux, il leur voulait... » Non ! Par contre, c'est vrai qu'il y avait de l'incrédulité, ça c'est juste. Vous voyez un petit peu la notion ? Donc l'analogie de la foi va vous permettre d'avoir une vue juste de ces textes. Si on continue au verset 15 et 16 dans Marc 16, « Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Analogie de la foi, quand je dis ça, vous comprenez maintenant. Hein? Analogie de la foi, y a-t-il quelque chose d'autre ailleurs dans l'Écriture ? Vous avez d'autres textes qui vous viennent là en lien avec ça ? Alors tout de suite, il y a... Acte 1, ah, Matthieu 28, évidemment, qui vient d'abord, hein, mais aussi Acte 1, Matthieu 28, 19 et 20. Hein. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Il y a aussi dans Luc, hein, Luc 24, 46, où il dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée à tous en son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins. » Ou acte 1, comme j'ai dit tout à l'heure, acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça va, vous avez les autres textes en tête ? Bon, on revient dans Marc, et il est dit « Allez dans tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Vous comprenez le texte maintenant ? Il est parlé de création ici. Si vous avez les autres textes, vous allez comprendre que ça signifie en fait à tous les humains. Si vous n'avez pas l'analogie de la foi, vous allez prendre le mot qui est là, qui est Christis, si je ne me trompe pas, qui se dit, ok, bah, c'est toute la création, c'est toutes les créatures, donc il faut aller prêcher aux oiseaux, il faut aller prêcher aux lions. Je ne sais pas si je voulais dire ça, bon, je le dis quand même, puisque je l'ai lu, il y a quelqu'un un jour qui a dit une cage aux lions pour prêcher aux lions avec ce texte. Mais il est mort. Non, mais vous comprenez ? L'analogie de la foi nous permet de lire ce texte avec une compréhension qui est juste. Donc quand il dit aller prêcher à toute la création, c'est à tous les êtres humains. Ce n'est pas aux plantes, aux animaux, etc. Puisque malheureusement, ça s'est fait. Et ensuite, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, verset 16. C'est la ligne de démarcation entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Et là, on a d'autres textes dans la Bible aussi qui nous aident à le comprendre. Vous avez un chapitre dans un évangile qui nous parle de ça ? Vous avez une idée ? Jean 3, tu donnes même le verset 36, c'est parfait, ou le verset 18 déjà. Le verset 18 qui dit « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce que celui qui n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Ou 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » En ayant ces textes, analogie de la foi, on va comprendre ensuite ce qui est écrit dans Marc. Ça nous permet de comprendre que le baptême qu'il est question ici, il est dit « Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ce texte est des fois pris pour dire « Celui qui n'est pas baptisé, il est perdu. » Analogie de la foi, les amis. Analogie de la foi, mes chers frères et sœurs, c'est vraiment important. Le critère déterminant, c'est celui qui croit et celui qui ne croit pas. Évidemment, celui qui croit va se faire baptiser. Mais l'élément déterminant pour savoir si quelqu'un est sauvé, c'est sa foi, c'est ce qu'il croit. Passons maintenant à la partie la plus délicate de ce texte de Marc 16, puisque vous m'attendez tous au contour, donc je suis obligé de le prendre. Je suis obligé de le prendre, t'es d'accord, hein ? Verset 17. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne le fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Jusqu'ici, pour l'instant. Alors, ces versets ont donné lieu à toutes sortes de pratiques. Alors, j'ai été vérifié, parce que j'avais entendu des choses, je me dis, maintenant je vais vérifier, il faut que je sache si c'est vrai ou pas. Mais j'ai vérifié, malheureusement. Donc, il existe des églises, donc, et même un livre qui est sorti en 2017, et une émission même à la télévision suisse romande en 2019, en lien avec des églises qui font en fait des tests de foi, où en fait on prend des serpents venimeux, et puis en fait la foi fait que, ben, même si on est mordu comme ça, eh bien on est protégé sur la base de ce texte-là. C'est Marc 16 qui est toujours donné. Et là, en fait, vous commencez à connaître mon refrain, analogie de la foi. Surtout dans un texte entre crochets, hein, analogie de la foi. Est-ce qu'on trouve des éléments dans le Nouveau Testament en lien avec ces différents éléments qui nous sont donnés ici ? Alors, le temps me manque pour faire tout le développement ici de chaque partie. Mais je peux simplement vous dire que quand on parle de chasser les démons, bah évidemment, c'est des choses qui se sont faites. Qu'il parle de nouvelles langues, oui, les nouvelles langues sont données. Ensuite, ils saisiront des serpents, non. On n'a aucun texte où quelqu'un de son plein gré va saisir un serpent pour tester sa foi ou dire « moi, je suis chrétien, n'importe quel serpent peut me piquer, j'ai pas de problème ». Il y a un exemple, c'est Paul, dans Actes. Donc cet exemple de Paul, il ramasse un tas de broussailles pour le mettre dans le feu, c'est acte 28, verset 3. Mais une vipère en sortie par l'effet de la chaleur s'attache à sa main. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres, certainement cet homme est un meurtrier, puisqu'à peine sauvé de la mort, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. Et puis après, plus tard, ben, il a vécu, puis c'est l'inverse qui s'est passé, il croyait que c'était un dieu. Mais Paul n'a pas été chercher un serpent. Il a été protégé. Oui, ça c'est vrai. Il a été protégé. Et nous pouvons voir, dans ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 11, si vous voyez versets 23 à 28, tout ce qu'il a vécu, vous voyez une protection de Dieu, même de la mort, de la lapidation. Il y a une protection de Dieu, c'est vrai, c'est juste. mais de commencer à faire des tests de foi, et surtout même dans Marc, il n'y a pas d'impératif. Il n'y a pas dit qu'il faut le faire. Mais la protection, oui, nous le voyons clairement. Le fait aussi que des signes distinctifs des apôtres, d'ailleurs, sont faits dans la Bible. Vous prenez 2 Corinthiens 12, 12. Paul dit clairement que les signes distinctifs des apôtres, le premier, vous savez ce que c'est ? La patience. Intéressant. Après, il y a les signes, les miracles. La patience, le premier truc. Bon, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Mais... Donc là, ces signes distinctifs ont été donnés aux apôtres qui ont posé un fondement qui n'a pas changé depuis 2000 ans, ce fondement. Et il ne changera pas. On n'a pas besoin de nouveaux apôtres qui viennent poser un nouveau fondement. Et la notion du poison, ben on trouvera ça on trouve nulle part, écrit nulle part. Par contre, il y a toujours cette notion de protection. Dieu protège. Dieu protège, ça c'est sûr, et nous le retrouverons. Mais cette notion de l'impératif qui serait donné ici n'existe pas. Et d'ailleurs, si quelqu'un dit « je vais prendre un serpent, voir s'il me pique ou pas », vous savez qu'est-ce qui va arriver ? On va répondre par l'analogie de la foi. Jésus, deuxième tentation, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Il nous a même déjà donné la parole, en fait, qui va répondre à ce genre d'assertion. Et donc la guérison des malades aussi, c'est des choses qui se sont passées et Dieu guérit encore aujourd'hui. Et je vous encourage à vraiment toujours utiliser cette analogie de la foi. C'est tellement important. Particulièrement dans ces textes-là, mais même dans d'autres textes. Des fois, on peut comprendre quelque chose. Le but, ce n'est pas ce que je comprends. Le but, c'est ce que Dieu veut me dire dans sa parole. On prend la dernière partie, verset 19. Enfin, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Alors, ce texte de Marc 16, 19 fait un résumé de l'ascension et de la cession de Jésus. La cession, c'est le fait qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Ça signifie que Jésus a terminé son œuvre, qu'il règne. Alors, est-ce qu'on trouve quelque chose dans les évangiles en lien avec l'ascension ? Oui, dans Luc, on a aussi ce texte, il nous parle de l'ascension, dans Luc 24. Est-ce qu'on trouve quelque chose en lien avec le fait d'être assis à la droite ? Il y a une mention. C'est quand Jésus est devant le tribunal et qu'on lui demande s'il est Dieu, hein, s'il est Christ. Et puis il dit en fait qu'il sera assis à la droite du Tout-Puissant. Donc là, il y a une notion, c'est vrai. Mais ensuite, nous avons ça dans le Nouveau Testament. Il me manque des feuilles, alors je vais faire ça par cœur. c'est dans le Nouveau Testament, dans Colossiens 3.1, je vais vérifier parce que si ma mémoire elle tient encore un peu le coup. Donc dans Colossiens 3.1, il est parlé justement du fait que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, voilà, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. On a plusieurs textes qui nous parlent de ça, on a aussi des textes dans Romains, on a aussi Étienne qui voit Jésus. Bon là, il est debout à la droite de Dieu, hein, mais il est à la droite de Dieu. Cette notion, on la retrouve. Et en fait, le fait qu'on le retrouve dans le Nouveau Testament, dans différentes parties, nous indique justement qu'il semble que celui qui a écrit ce texte-là avait la connaissance du Nouveau Testament en fait. Peut utiliser ces éléments, ce qui fait un peu un résumé de ce qu'il y a ici dans ce texte. Et puis ensuite, on a la dernière partie. « Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Et là, si vous voulez une analogie de la foi, lisez Actes 1 à 28. Non, mais c'est le livre des Actes, en fait. C'est un résumé de ce livre des Actes qui est dit ici, dans ce verset. J'espère vous avoir fait comprendre maintenant que ce texte de Marc 16, un texte qui est entrecroché, se lit avec l'analogie de la foi. Là, c'est très important. Et on peut être super encouragé par ce texte-là. Il ne faut pas en avoir peur. Il n'y a pas de mensonge dans ce texte. Mais il peut y avoir de la mauvaise compréhension si on ne pratique pas l'analogie de la foi. Et ça, c'est un élément vraiment, vraiment important. Nous arrivons à notre dernier point, le dernier point donc qui est le message de Marc. Quel est le message de l'évangile de Marc ? Ça fait maintenant un certain temps, hein, comme j'ai dit, c'est la 44e prédication sur Marc. Bon, ben, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Marc ? Comment a-t-il commencé ? Vous vous souvenez ? C'est pas grave, hein, vous pouvez juste tourner les pages et pas aller voir le début de Marc, ça gêne pas, hein, faut pas avoir peur de ça. Donc, il commence comment ? Il commence très direct. Il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu ». Voilà, il a déjà tout posé en fait. Il parle d'une bonne nouvelle qui est qui est Jésus-Christ. Dans Jésus, il y a le terme « celui qui sauve », Christ le Messie, et puis « fils de Dieu ». On a déjà tout l'évangile ici. Tac, il est direct, Marc. Et puis il termine de manière aussi très, très directe. Elles sortent du tombeau, elles s'enfuient en tremblant, elles ont vécu quelque chose d'extraordinaire, de divin. Puis voilà. La résurrection, elle est annoncée. Il y a les autres évangiles qui sont là. Hein, donc, Marc n'est pas le seul à rapporter les choses. Donc, c'est aussi très direct. Et durant tout cet évangile, on a très peu de discours dans cet évangile. Il y a juste Marc 13. Sinon, il y a très peu de discours. En fait, on est en train de suivre Jésus. On l'accompagne dans ce qu'il fait. Il fait des miracles. Il rencontre des personnes. Il souffre. C'est le serviteur souffrant dans Marc. Et Marc est envoyé à l'église de Rome, qui était dans une situation de persécution. Ils avaient besoin d'entendre que leur sauveur, celui qu'ils suivaient, était quelqu'un qui connaissait ce qu'il vivait. Ils pouvaient s'identifier à lui. Et dès la première parole de Jésus, c'est la question qui devrait tourner dans nos têtes jusqu'à la fin de Marc. Et je vais vous la donner maintenant. Au verset 15 de Marc 1. Jésus dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tout l'évangile va développer ensuite la bonne nouvelle. Et la question est toujours là à la fin. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Donc la question c'est, vous êtes-vous repenti ? Avez-vous cru à la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Ça c'est le message de Marc. Et ce verset 15 du chapitre 1 est un élément clé pour tout l'évangile. Et comme conclusion aujourd'hui, eh bien, comment utiliser un texte entre crochets ? Si je vous dis ça maintenant, vous dites quoi ? En le mettant à la poubelle ? Non. Non. En utilisant l'analogie de la foi. Et ça, c'est un élément qui va aussi vous aider à être beaucoup plus paisible face à ces textes. Parce que des fois, quand on apprend qu'il est possible qu'il ne soit pas dans l'original, ça peut nous perturber. Hein. On se dit, mais attends, mais est-ce qu'on a vraiment la parole de Dieu complète et tout ? Je vous ai dit, tout ce qui n'est pas entre crochets, c'est quelque chose qui est même donné clairement. Dieu a donné même des outils pour qu'on soit même rassuré. Et puis, même ces textes-là, Dieu les a laissés dans nos paroles. Donc, je pense qu'elles sont aussi utiles avec l'analogie de la foi. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, il est vrai que débuter l'approche de ce texte en se demandant si le texte fait partie de l'original nous fait un peu bizarre. Mais Seigneur, tu utilises des moyens tels que ceux-là pour nous faire réellement réfléchir sur la parole que tu nous as donnée. Pour nous permettre aussi de creuser et de nous rendre compte que non seulement nous pouvons simplement te faire confiance que tu préserves ta parole, mais tu as donné même des moyens pour vérifier que cette parole a été transmise d'une manière qui est tellement précise qu'il est possible de voir même quelques erreurs des copistes, comme les poids qui n'auraient pas tout à fait un kilo, mais on le voit tout de suite en les pesant avec les autres. Et ainsi, nous pouvons être rassurés que ce que nous avons entre nos mains, c'est ce que tu voulais que nous ayons aujourd'hui, et qu'il y a eu il y a 500 ans, qu'il y a eu il y a 1000 ans, qu'il y a eu il y a 2000 ans. C'est un cadeau, Seigneur, de ta part. Et nous voulons te dire merci pour cette grâce. Merci aussi parce que ta parole, eh bien, tu la donnes aussi de manière à ce qu'elle se complète, elle permet même de se vérifier à l'interne. C'est magnifique, Seigneur, comme tu as créé ta parole de manière à ce que nous puissions non pas chercher à donner nos avis de « voilà, ça c'est mon interprétation, ça c'est la tienne ». Non, tu nous as donné ta parole qui a d'autres textes qui éclairent pour que ce soit ce que toi tu voulais nous dire, que nous sommes appelés à comprendre. Aide-nous, Seigneur, à utiliser ta parole d'une manière qui t'honore, d'une manière qui ne nous met pas en avant, qui te met en avant, d'une manière qui enlève toutes nos préférences pour mettre tes préférences, d'une manière qui enlève nos présupposés pour mettre les tiens, d'une manière qui nous permet d'enlever notre orgueil pour l'approcher humblement et nous laisser transformer par ta parole. Ô Seigneur, nous te remercions pour tout cet évangile de Marc qui nous a permis de mieux connaître Jésus-Christ, d'apprendre à l'aimer encore un peu plus. Et c'est vraiment ma prière, Seigneur, pour moi-même et pour mes chers frères et sœurs ici, que nous t'aimions encore plus et que nous nous réjouissions de savoir que le royaume de Dieu est venu sur la terre, c'est Jésus-Christ, et que par la repentance et la foi, nous saisissons cette grâce et entrons dans ce royaume. Sois loué, sois béni, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.